Le journal, Adia Chipoukou. Merci de nous écouter. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal. La journée mondiale des enseignants, célébrée sous fond de tension ce jeudi à Lissala, à l'Équateur. Une manifestation des élèves des écoles conventionnées catholiques a été violemment réprimée ce matin par la police. Situation humanitaire préoccupante dans les hauts plateaux d'Uvira au sud Kivu. Les centres de santé manquent de médicaments, les écoles s'écroulent. À cela s'ajoutent des tracasseries militaires, constat d'une mission humanitaire qui s'est rendue sur place. L'exploitation du barrage d'Inga au centre d'une table ronde ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. La rencontre réunit plusieurs bailleurs de fonds. C'est tout pour les titres, tout de suite les détails. Bonjour à tous. Journée mondiale des enseignants, c'est aujourd'hui 5 octobre. Le thème de cette année est « Des enseignants de qualité pour une éducation de qualité ». Cette journée a cependant été célébrée sur fond de tension ce jeudi à Lissala. Des élèves des écoles conventionnées catholiques sont descendus dans la rue pour réclamer la paix de leurs enseignants. Cependant, ces écoliers ont été violemment dispersés par la police qui a tiré des balles en l'air. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Selon des témoins, ce jeudi matin, la police de Lissala est intervenue avec plusieurs coups de feu en l'air pour contrer des milliers d'élèves catholiques. Ceux-ci manifestaient pacifiquement en direction du bureau du commissaire de district de la Mongala. Objectif, réclamer la paye de leurs enseignants qui, la veille, avaient suspendu le travail. À l'origine de cette grève, le détournement de plus de 7 millions de francs congolais sur leur enveloppe salariale du mois de septembre par le comptable de l'EPSP. Mais le mouvement de ce matin a provoqué une panique générale à Lissala. Conséquence, services publics, marchés et boutiques, tout était fermé jusqu'à 11 heures locales. Selon l'inspecteur de la police de la Mongala, le colonel Yagolo, ces hommes ont dispersé les enfants parce qu'ils étaient manipulés par leurs enseignants. Mais cela n'a pas plu au président du comité de lutte anti-tracassure de Lissala, André Bodumbu.
L'intervention de la police, en tout cas pour nous autres, c'est mal interprété. Il ne fallait pas utiliser des armes à feu pour disperser les enfants. Et entre-temps, quelques enseignants et le professeur ont été matraqués par les policiers. Il y a un élève qui est grièvement blessé en courant. Il est à l'hôpital avec une suture de 12 fingers.
Difficile pour l'instant d'établir le bilan de cette intervention des policiers qui, selon les témoins, ont recouru à des balles réelles. Bandaka, Paul-Richard Malengela, Radio Okapi.
Toujours au sujet de la journée des enseignants à Kinshasa, le syndicat des enseignants du Congo invite tous les enseignants à méditer sur la situation de l'enseignement du pays qui, selon lui, est précaire. Interrogé sur les attentes des enseignants congolais après le deuxième tour du scrutin présidentiel, Jean-Pierre Kimbuya, président du CIECO, a indiqué que le président élu devrait penser à l'amélioration des conditions générales de travail des enseignants. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Ramambay.
Les deux candidats n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont censés, n'est-ce pas, et vraiment réfléchir sérieusement sur la question de l'éducation. Parce que c'est par l'éducation qu'on peut développer les pays. Parce que l'éducation, elle est la clé de voûte du développement durable. Qu'ils puissent vraiment penser non pas seulement aux conditions des enseignants, mais aux infrastructures scolaires aussi, notamment les matériels didactiques. Et pourquoi pas adapter notre système éducatif qui, en termes de programme, connaît une certaine obsolescence. Donc les deux candidats ont l'occasion rêvée. Nous avons dans ce pays 250 000 enseignants au niveau du primaire et du secondaire, mais autant aussi au niveau d'enseignement supérieur et universitaire. Parce que l'éducation publique de qualité qui concernait l'enseignement fondamental doit aussi concerner maintenant les secondaires et pourquoi pas l'enseignement supérieur et universitaire.
Direction Luisa au Kasaï occidental, avec ce bras de fer entre la population et l'administrateur du territoire, à la base, les fonds de rétrocession pour ce territoire. Hier mercredi, près de 3000 personnes, conduites par 24 chefs coutumiers, ont marché pour dénoncer ce qu'ils appellent détournement des fonds rétrocédés au territoire par le gouvernorat de province. Selon eux, l'administrateur de ce territoire aurait détourné plus de 5 millions de francs congolais, alors que ce territoire se trouve menacé par des ravins. Le chef Kamaï, président territorial des chefs coutumiers et l'un des leaders de la marche d'hier à Luisa, nous parle.
La population de Luisa réclame à ce que le territoire de Luisa qui a reçu le fonds de rétrocession, 5 350 000 francs congolais reçus, qui a mis ça dans les commerces au lieu de mettre ça dans les jalons positifs, puisse restituer même la moitié de cette somme. Vu qu'il y a 4 têtes de ravin, et l'autre ravin qui a coupé la chaussée qui quitte la cité vers la ville, et que les autorités administratives ne s'y intéressent pas.
Contacté à ce propos, Emmanuel Denis Palanda, administrateur de Luisa, rejette ces accusations. Il reconnaît toutefois avoir reçu cette somme qu'il a aussitôt orientée vers d'autres priorités de développement.
L'argent de la rétrocession, avec comme objectif de moi d'entretenir les résidences, de s'attendre aussi aux autres problèmes prioritaires. La priorité était mise sur la résidence. On devait rétablir la résidence, soit acheter des histoires là qui peuvent dresser la valeur de l'État, là où nous restons. Ces 5 millions n'ont pas été affectés pour tirer des ravins.
Saisi de ce dossier, Patrice Ilunga Mubengai, gouverneur de province ad intérim, compte diligenter une enquête dans cette contrée pour évaluer la gestion des frais de la rétrocession provinciale. C'est un dossier signé Pierrot et la Meji. Il est 12h05 à Kinshasa, 13h05 à Uvira, c'est dans le sud Kivu. Les centres de santé dans les hauts plateaux d'Ouvira manquent de médicaments, les écoles s'écroulent et bien d'autres difficultés. C'est le constat d'une mission humanitaire effectuée dans cette partie du Sud Kivu pendant 10 jours. La mission dénonce également des tracasseries militaires ainsi que des barrières illégales dressées par des éléments FRDC. Selon le chargé de liaison de Ocha, Blaise Kabongo, cette situation alarmante a fragilisé près de 100 000 habitants de cette région. Blaise Kabongo au micro de Fiston Ngoma.
On a constaté bien des choses. D'abord, la première, c'est que c'est une population qui est soumise à une taxation, je dirais, illégale des militaires qui sont déployés dans la zone pour la sécurisation de cette population. Parce que pour faire, par exemple, une course des Moranvia jusqu'à Uvira, aller-retour, donc à chaque déplacement, la population doit débourser au moins 5 dollars à des différentes barrières des militaires. Et c'est extrêmement difficile pour la population et ça rend leur vulnérabilité encore plus aiguë, quoi. Et la deuxième chose, c'est que la situation humanitaire, elle est assez grave dans tous les secteurs pratiquement. Il y a des écoles qui s'écroulent, des centres de santé qui n'ont pas de médicaments, des champs qui ne produisent rien, donc c'est une situation généralement assez alarmante.
Restons dans le sud Kivu pour parler de l'écroulement partiel d'un mur de la prison centrale. C'était lors des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Bukavu le week-end dernier. D'autres murs menacent encore de s'effondrer, voulais-je dire. Dans certaines cellules, l'eau passe même au travers des murs. Tableau de cette situation avec Ewing Ahmed Salumou.
C'est environ 8 mètres de murs qui se sont écroulés le week-end dans la partie non habitable de la prison, jadis utilisée comme cour pour les détenus mineurs et qui aujourd'hui sert des champs des haricots. Les blocs de ciment sont étalés sur le sol et certains ont été utilisés pour renforcer une porte qui donne accès à l'extérieur. À d'autres endroits, les murs menacent de s'effondrer. Ils s'effritent à cause des eaux de ruissellement des maisons alentours qui n'ont pas des canalisations. Même constat à l'intérieur de la prison. Dans certaines cellules, l'eau passe même à travers les murs quand il pleut fortement et les prisonniers doivent éponger pour évacuer l'eau. Tout cela vient s'ajouter à des conditions carcérales déjà mauvaises. Les canalisations des latrines sont souvent bouchées et dans certaines cellules, ils sont plus de 70 prisonniers à y dormir. Bukavu, Ewing Ahmed Salumou, Radio Kapi.
Quittons le sud Kivu pour le nord Kivu, où une ferme à Mushaki a été visitée hier par des hommes armés. Ces derniers ont emporté du bétail, des sacs de haricots et des matelas. Le propriétaire de la ferme déclare qu'il s'agit des soldats du bataillon du major Baudouin, non favorables au brassage et qui sont basés dans la même localité. Il estime que ce pillage est un règlement de compte. Récit des faits de Goma avec Gisèle Cage.
C'est vers 11h dans la matinée de mercredi qu'un groupe d'hommes armés en uniforme se sont pointés à la ferme Mushaki Kabunda 2. Ils ont emporté 5 vaches, 60 sacs de haricots, 40 bidons de lait caillé et d'autres biens qui étaient à l'intérieur de la maison. Le propriétaire de la ferme, M. Machago, qui était absent au moment du pillage, a eu rapport de ses éleveurs qu'il s'agissait des soldats non brassés de la 81e brigade basée dans le secteur. C'est l'unique ferme qui a été pillée parmi tant d'autres. Le propriétaire déclare qu'il s'agit d'un règlement de compte, car selon lui, certains éléments de la 81e brigade, jusque-là hostiles au brassage, en veulent à son fils leur commandant. En effet, ce dernier a annoncé publiquement qu'il acceptait d'aller au brassage avec ces hommes qui lui sont fidèles. Le commandant intérimaire de la 8e région militaire, le général Mbuyi Musamu, promet d'interpeller le major Baudouin à ces sujets. Gisèle Cash Goma, Radio Okapi.
Nous vous le disions en titre, une table ronde internationale sur l'exploitation du courant Dinga se tient ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. Il est question dans ces assises de 2 jours d'informer les bailleurs de fonds et autres investisseurs sur comment exploiter et développer le potentiel hydroélectrique du site Dinga, comme le précise Paul Mputu Boleinglanga, administrateur directeur technique de la SNEL, Société Nationale d'Électricité. Il est au micro de Innocent Olenga.
C'est une table ronde que nous organisons. Nous pour République démocratique du Congo avec la BAD sur le site d'Inga. Parce que beaucoup de gens sont en train d'envier le site d'Inga et chacun qui a un peu d'argent voulait amener les choses telles qu'il entend juste pour que lui vienne se servir un peu parti. Et nous avons dit non, le site d'Inga appartient à la République démocratique du Congo. Nous, SNEL, nous avons réfléchi sur ce que nous voulons faire d'Inga demain, d'ici 25 ans, d'ici 30 ans. Telle est la vision de la SNEL sur l'utilisation et l'exploitation du site d'Inga. Maintenant, il faut porter cette information à la communauté internationale pour que tout le monde sache demain comment se comporter si on veut venir chercher le pouvoir à Inga. Qu'est-ce qu'il faudra faire, comment faire pour l'avoir et quand vous venez chez nous, on vous imposera des conditions.
Sachez par ailleurs que la SNEL a annoncé hier le vol des câbles électriques d'au moins 7 km dans la nuit de lundi à mardi sur la ligne qui exporte le courant du barrage d'Inga en Afrique australe, plus précisément à Kata. Un mot à présent sur le processus électoral. 6 jours après le début de la campagne électorale pour les élections des députés provinciaux, à Kindu, quoique timide, elle se manifeste par le vol des banderoles et photos de certains candidats. Les victimes se plaignent et interpellent la police pour ces faits commis par des personnes non encore identifiées. Reportage de Mamie Alili Chibangu.
Depuis le début de la campagne pour la députation provinciale à Kindu, en fait que c'est seulement un peu de banderoles et photos de quelques candidats qui sont visibles à travers les grandes artères de la ville, vient s'ajouter le fait qu'à chaque lever du soleil, les propriétaires ou leurs partisans constatent qu'il y a eu soit vol, soit déplacement de leur matériel de campagne. Ces comportements jusque-là produits par des inconnus indignent les candidats victimes. C'est le cas d'un candidat de force du Renouveau, Juvenal Kabwende Moussa, qui a constaté en l'intervalle de 2 jours 20 de ses banderoles affichées volées. Il regrette du fait que ces matériels coûtent cher et ne peuvent pas être fabriqués sur place. Malgré que ces faits malheureux se produisent, précisons que la campagne elle-même à Kindu demeure timide. En plus, il y a d'autres candidats qui déplorent également les comportements des injures proférées contre eux par les sympathisants des camps adverses. Pour sa part, la police rappelle aux candidats et à leurs sympathisants qu'ils doivent battre campagne de façon apaisée sous peine de sanctions judiciaires. La CI interpelle également les candidats à respecter les codes de bonne conduite des partis politiques. Mamie Alili Chibangu, Kindu, Radio Kapi.
Autre chose à présent, fin hier de la mission des techniciens experts d'ensablement au port de Kalemi au Katanga. Les techniciens de la société Amsar de Bujumbura au Burundi viennent d'étudier la possibilité d'amorcer les travaux de dragage du port. Pendant 2 semaines, ces experts ont évalué, entre autres, le volume de travail et la possibilité d'emplacement de la drague. La direction de la régie Est de la Société nationale des chemins de fer du Congo se dit optimiste pour le démarrage des travaux avant l'inauguration prochaine du pont de Niemba. François-Xavier Mibé.
Selon le directeur des districts de la SNCC, l'étude de faisabilité est soumise à la direction de la société Amsar avant d'amorcer les négociations sur les coûts du projet. Pour le directeur Lobouli Bilonda, les travaux actuels à charge de la direction générale de la SNCC consistent à créer un grand chenal au port de Kalemi. Cette solution provisoire va faciliter aux unités à grand tonnage de la SNCC d'entrer et sortir du port. Le directeur indique même que ces travaux doivent être exécutés peu avant l'intervention des grandes envergures envisagées par la coopération technique belge. Par ailleurs, les estimations établies par la direction de la régie des voies fluviales établissent que le volume d'ensablement du port de Kalemi dépasse aujourd'hui 190 000 m3. Un obstacle majeur responsable des avaries causées par des échouements fréquents. Pour la SNCC, désengorger le port de Kalemi, c'est non seulement faciliter la reprise normale du trafic transfrontalier sur le lac Tanganyika, mais surtout raviver l'économie du district du Tanganyika. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemi.
À Isiro, dans la province orientale, plusieurs projets initiés par l'ONG CECA, Synergie d'éducation communautaire et d'appui à la transition, sont restés inachevés après 3 mois de travail. CECA, qui bénéficie d'un appui financier de l'organisme international USAID, a fermé ses portes dans cette ville après 8 mois d'activité. Elle laisse donc derrière elle des travaux non achevés sans aucune structure de suivi. Père Justin Adricot, membre des communautés locales, explique.
C'est ça, s'en est allé incognito. Tous les projets sont restés en suspense. Et jusqu'au stade où nous sommes en train de parler, certains projets d'amélioration de puits d'eau, par exemple, sont restés des dangers publics. Nous nous interrogeons au niveau de la population, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, va-t-il revenir? On reste comme ça, on ne sait pas à qui s'adresser.
Pour l'ONG CESA, les communautés locales à Isiro sont seules responsables de cette situation. On écoute à ce sujet Alain Moulumba, chargé de suivi des programmes CESA à Kinshasa.
La communauté elle-même avait volé des sacs de ciment. Et nous, à notre niveau, on avait considéré comme si ce projet-là avait été annulé parce que elle-même, la communauté, s'était rendue responsable des frais pour pouvoir terminer les travaux, quoi. Parce que nous, on appuie la communauté avec les matériaux de construction. Puis on prend en charge la main d'œuvre qualifiée. Donc l'ingénieur, quelques techniciens, la communauté, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est responsable de la gestion des matériaux.
C'est donc par ce dossier réalisé par Aliana Alipanagama que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et sachez que vous pouvez le suivre sur Internet, à savoir www.radioocapi.net. Ce journal est également rediffusé chaque soir sur ondes courtes. Notez la fréquence 11 890 kHz. Excellente condition d'écoute sur Radio Okapi.